simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est le Régor. Chaque semaine, sur l'Écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, et bien ce soir, on va bien évidemment, dans un premier temps, vous parler de la préparation des mobilisations du 5 décembre qui vont avoir lieu avec peut-être la naissance d'un mouvement social important en France. Pour ça, on va écouter tout de suite quatre petits extraits d'un meeting qui a eu lieu à la Bourse du Travail de Saint-Denis dans 93. C'était le 27 novembre, c'est-à-dire il y a peu de temps. Il y a quatre interventions, il y a une présentation, il y a ensuite un conducteur RATP qui est en même temps d'ailleurs gilet jaune. Ensuite, il y a une enseignante et à la fin, ça se termine par ceux qui ont gagné leur lutte, c'est-à-dire les cheminots du technocentre des Châtillons. Voilà, alors on y va peut-être, puis après bien évidemment, on parlera sans problème.
C'est la troisième rencontre, donc cette fois-ci on a voulu vraiment essayer de l'élargir. Habituellement on était plutôt agent SNCF et agent de la RATP, plus ponctuellement certains profs qui pouvaient être amenés à venir et prendre la parole en fin de rencontre. L'idée pour nous au début c'était vraiment d'avoir une activité plutôt intense en fait entre la RATP et la SNCF. Donc il y a eu déjà des premières tournées allant du côté d'agents SNCF qui rejoignaient les agents RATP pour aller tourner dans les différents dépôts, chantiers, etc. aux côtés de la RATP. Puis derrière on a eu la semaine dernière notamment l'inverse, c'est-à-dire des collègues de la RATP qui sont venus appuyer des cheminots pour aller solliciter les agents SNCF pour cette grève reconductible à partir du 5 décembre. Mais également il y a eu toute une phase, vous avez pu le voir, de tractage assez massif dans un certain nombre de gares au-delà de cette rencontre. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de représentants syndicaux de divers syndicats, que ça soit à la RATP ou à la SNCF, qui ont pris des initiatives aussi directement d'aller tracter massivement vis-à-vis des usagers. Et puis bon, les retours qui sont sortis un peu de tout ça, c'est vraiment beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire que même les usagers, en fait, qui d'habitude sont pressés, quoi, les gens qui vont bosser ou qui rentrent ou qui sont pressés de rentrer chez eux, attraper leur métro ou leur train, ont reçu avec beaucoup d'enthousiasme, en fait, le fait de recevoir un tract et de discuter rapidement dans une gare ou dans une station, bah, de discuter autour de cette grève du 5 décembre. Et puis on l'a vu, il y a un engouement qui aujourd'hui, il y a eu un démarrage par les collègues de la RATP le 13 septembre, cet appel qui a été lancé pour le décembre illimité, il a été rejoint très rapidement par différentes organisations de la SNCF. Et puis derrière, on a vu en cascade, on va dire, un certain nombre d'appels qui ont émergé, que ça soit chez les professeurs dans l'éducation nationale, dans les raffineries, dans la fonction publique, et chez les dockers, etc., dans la magistrature, et j'en passe, et des meilleurs. Donc il y a un certain nombre d'appels, certains qui appellent uniquement, malheureusement, j'ai envie de dire, à la seule journée du 5 décembre. Il va falloir que nous, on ait un rôle aussi là-dessus à pousser pour que ça ne soit pas qu'une seule journée, parce que je pense que on est tous d'accord sur une chose, c'est que la réforme des retraites, elle ne se retirera pas sur une simple journée de 24 heures, même si elle était massive et même si le nombre de manifestants ce jour-là était très important. Et je pense que c'est ce qui regroupe notamment la RATP, la SNCF dès le départ, c'était qu'il fallait partir sur un mouvement dur, reconductible et qui essaye de tirer un maximum de secteurs. On a envie de faire un 95 multiplié par 100, c'est-à-dire non pas un mouvement catégoriel, sectoriel qui serait rejoint au fur et à mesure, mais là on a l'avantage de partir tous et toutes en même temps. L'idée maintenant, ça va être non pas qu'il y ait une locomotive qui se décroche et puis les autres qui restent à quai, mais que en fait cette locomotive qui est initiée par la RATP et la SNCF essaye de ramener tout le monde dans son sillage, parce que on le sait, les régimes spéciaux vont être attaqués plutôt durement, parce que c'est normal, il y a ce qu'on appelle des avantages en nature, c'est-à-dire que pour la pénibilité au travail et toutes ces choses-là, qu'on soit dans la fonction publique ou dans le transport, notre pénibilité, elle est compensée aussi à travers justement des régimes particuliers, et notamment un calcul particulier du système des retraites. Donc effectivement, on sait très bien que les régimes spéciaux vont être beaucoup plus impactés que le régime général. Cependant, le régime général, il va être tout aussi impacté. Il y a personne qui va échapper. Et puis on le voit dans les différentes vidéos qui tournent et qui circulent. On voit même maintenant que cette réforme qui se voulait féministe, au final, eh ben on est en train de voir que les femmes vont en pâtir peut-être encore plus que tout le monde. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses que les gens sont en train de comprendre au fur et à mesure. Au début, c'était difficile parce qu'on avait l'impression qu'on parlait un peu dans le vent et que les gens ne savaient pas de quoi on parlait, c'était quoi cette réforme. Et du coup, petit à petit, il y a un certain nombre d'informations. La communication est en train de commencer à payer. On voit dans les différents sondages, et notamment celui qui a été dans 20 minutes, là, vous avez vu que la majorité de la population soutient d'ores et déjà le mouvement du 5. Faut savoir que, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, en 95, le mouvement a commencé de manière impopulaire et est devenu populaire au fur et à mesure des journées. Donc ça nous positionne déjà dans un avantage, c'est que le gouvernement n'a pas le monopole, en tout cas, de la popularité concernant cette réforme des retraites. Et la popularité, elle est du côté de celles et ceux qui vont se mobiliser à partir du 5 décembre. Donc voilà, pour introduire et rentrer un peu dans le vif du sujet de cette rencontre. Le dernier appel qui émane de la rencontre RATP-SNCF, et peut-être quelqu'un pourra le lire après, il veut essayer de mettre en place un cadre d'auto-organisation en fait assez large. Pourquoi ? Parce que on se l'est dit plusieurs fois ici, on voilà, la trahison des directions syndicales, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou quoi que ce soit, ou de lire dans des boules de cristal pour savoir que, quoi qu'il arrive, le rôle, malheureusement, de certaines directions syndicales, ça va être d'essayer de négocier le bout de gras et ça va être d'essayer de tirer les choses. La seule et unique manière que nous, on connaît en tant que travailleurs et travailleuses de mobiliser, c'est les cadres d'auto-organisation qui tiennent justement le mouvement et qui empêchent toute trahison, en fait, toute négociation sectorielle, catégorielle, où en fait, eh ben, on aurait un flanc qui commencera à pencher parce qu'il se dirait, bah moi j'ai obtenu ce que j'avais à obtenir, allez ciao à tout le monde, démerdez-vous maintenant pour le reste. Donc ça, c'est tout ce que nous on a envie d'essayer d'éviter, et notamment l'importance des derniers jours. Je sais pas si vous avez vu Emmanuel Macron, il se positionne en tant que général de guerre, d'accord, réellement il a annulé son calendrier du mois de décembre, la COP25 notamment, et pour un président la COP25 c'est pas n'importe quoi. Donc c'est dire le niveau de tension qu'il y a aujourd'hui dans le gouvernement. Et la première chose qu'on est en train de voir, c'est qu'ils essayent de salir le mouvement qui va démarrer en essayant de le rendre catégoriel. C'est-à-dire qu'il y a des profs, il y a des gens du privé, il y a des raffineurs, il y a des appels qui se multiplient. Et malgré ça, la seule chose qu'ils essayent de faire paraître dans les différents médias, eh ben, ce serait uniquement la RATP, la SNCF qui se servirait de la populace pour pouvoir essayer d'obtenir leurs avantages. Voilà, donc c'est en gros, c'est des discussions que nous, on a envie de mener ici dans cette rencontre élargie, de savoir un peu dans les autres secteurs comment la RATP, les cheminots et les agents RATP que vous avez ici autour de vous, eh ben, peuvent vous aider à partir du 5 pour justement faire en sorte que ben, déjà on tire les collègues chez vous, et comment on essaye d'avoir un cadre auto-organisé à la base qui puisse réellement avoir du poids. On n'a pas envie de faire une AG incantatoire en fait, où il n'y a pas de mandat, où les gens viennent parler, on ne sait pas qui ils représentent ni quoi que ce soit. On aimerait vraiment, je pense, le souhait de ce qu'on voudrait faire à partir du 5, à l'image de cet appel qu'on a lancé, c'est une sorte de coordination en fait, une coordination des assemblées générales en fait, partout intermétiers qui se retrouveraient et qui décideraient quotidiennement, s'il faut, eh ben, de la marche à suivre, en fait, pour montrer que le mouvement, il est tenu par la base et il n'est pas tenu par des organisations syndicales qui, voilà, on voit la CFDT qui se met alors qu'elle dit qu'elle est pour le système par points, etc. Chacun, il dit son truc, quoi. Les avocats, quand on écoute les directions chez les avocats ou les médecins libéraux, ben, eux, ils disent, nous, la réforme des retraites, vous pouvez la faire passer, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement nos caisses qui sont excédentaires à pas toucher et le reste c'est pas nos affaires, alors que quand on discute avec des gens de la base, ils nous disent nous on est pour le retrait de la réforme. Donc c'est comment à la base on essaye de coordonner tout ça.
Donc bonsoir tout le monde. Donc moi je m'appelle Franck, je me présente, je suis conducteur de RER sur la ligne B côté RATP à Massy. Je suis gilet jaune également. Donc merci à mes copains qui sont là aussi. Voilà, on est beaucoup à être double casquette. Donc je vais parler de l'organisation sur la B vite fait. Donc justement nous on a voulu éviter de que ce soit que ce que tu disais les délégués syndicaux qui mènent la danse. Donc c'est pour ça qu'on s'est organisé à la base, les collègues. Je ne suis pas syndiqué, je précise. Et donc nous on fera nos AG aux ateliers de Massy. Toute la ligne fera les AG aux ateliers de Massy. Donc il y aura les agents des ateliers, il y aura les agents des gares, il y aura les conducteurs, les maîtrises également qui font grève et qui veulent venir avec nous se joindront à nous. Donc nous on veut vraiment faire une AG ligne B RATP tous ensemble, on veut pas surtout pas de catégorielle et faire remonter les infos tous ensemble ensuite pour qu'on puisse tout coordonner. Je te rejoins à 2000%, il faudra à l'instar de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, il y a des personnes qui sont sorties pour l'essence et très très vite on s'est mis à demander énormément de choses. Donc je suis d'accord avec toi, il faudra pas s'arrêter aux retraites. Je suis gilet jaune, je peux que te rejoindre. Beaucoup de gilets jaunes ont peur aussi qu'on se serve d'eux pour grossir nos rangs et gagner que sur nos retraites et les abandonner après. Donc il y a des gilets jaunes qui veillent au grain, qui sont dans nos entreprises et qui veulent pas que ça arrive. Donc après on peut pas se porter garant pour tout le monde. Mais pour ma part, je lâcherai personne. J'ai travaillé 12 ans dans le privé. Je me bats aussi pour mes anciens collègues qui ne peuvent pas le faire. J'ai des enfants, j'en ai une qui est en CAP coiffure, c'est la misère dans la coiffure, ainsi de suite. On a tous des parents, on va tous à l'hôpital, on va tous à l'école. Alors, on peut pas laisser tout ça dans cet état-là, donc il faudra bien qu'on soit tous ensemble. Mais au départ, on est obligé d'utiliser les retraites pour se fédérer et partir. Et l'idée, mais ça je crois qu'on est tous d'accord, c'est de déborder évidemment toutes nos centrales syndicales. S'il y en a une qui nous trahisse, c'est pas grave, ça aura pas d'incidence, on sera tellement organisé sur le terrain que s'il y en a une qui dit reprenez, on reprenne pas. Et c'est en ça que je veux rassurer les gens en disant que on y va pour tout le monde, on y va, comme tu disais, Anas, l'inverse de ce qu'ils disent à la télé. Moi, je me bats pas pour mon régime spécial, je me bats pour tous les Français, pour tout le monde. Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Et à nous de pas nous laisser diviser et de rester ensemble pour gagner.
23. Bah déjà merci aux collègues de la RATP, la SNCF pour avoir élargi cet AG ce soir, parce que je pense que face à, comme le disait Anas, un gouvernement qui est en train de marteler dans les médias ces derniers temps que ça va être une grève de la RATP et de la SNCF, je pense que c'est important de montrer que non, en fait, il y a d'autres secteurs qui vont être en lutte, notamment l'éducation nationale, mais pas que. On voit en fait des appels à grève qui se développent dans plein de secteurs. On voit les derniers appels comme EDF, etc., etc. Donc je pense que ça, c'est très important qu'on arrive à se regrouper pour attaquer ensemble et montrer que c'est plein de secteurs qui partent ensemble. Nous dans l'éducation, c'est vrai qu'on a un secteur qui est particulièrement attaqué par ce gouvernement. On subit en fait depuis le début contre-réforme sur contre-réforme et il y a un ras-le-bol très fort en fait du mépris qui s'installe de ce gouvernement, et le ras-le-bol il va encore se manifester le 5 décembre puisque on va être les premiers échos qu'on a, des premières remontées d'intention de grève, notamment dans les écoles primaires, mais c'est que ça va être massif le 5 décembre. L'enjeu pour notre secteur, c'est d'arriver en tout cas à reconduire le 6. Il y a des secteurs il y a des premières informations syndicales qui sortent des bahuts, qui appellent à reconduire le 6. Nous en tout cas, notre enjeu, c'est de massifier, et je pense de montrer un tous ensemble avec tous les secteurs ensemble, c'est un premier pas pour arriver à convaincre les collègues de massifier et d'arriver à reconduire la grève. Il y a des idées qui commencent à émerger des copains là qu'on parlait un petit peu avant. Je pense que c'est des idées qui sont importantes. J'y réfléchissais aussi un peu avant, mais c'est comment en fait on peut essayer de aller un peu chez les uns les autres. Pour montrer en fait qu'on est là, que voilà, on n'est pas tout seul sur nos lieux de travail, mais que on est un collectif et que on est tous ensemble pour se battre. Donc je pense que c'est une première idée. Moi, je pense qu'il y a des, idées aussi de, qui commencent aussi à émerger aussi. Bah, nous, on discutait, on a fait une heure syndicale dans mon établissement, mais aussi de monter, commencer à parler, en fait, de faire des caisses de grève. Bah, nous, on pensait surtout commencer à faire des caisses de grève pour les travailleurs les plus précaires de nos établissements. On pensait essentiellement aux AED, etc. Pour déjà dans un premier temps, mais je pense que c'est quelque chose qui doit, en fait, aussi, enfin, que c'est important aussi de voir ça, les questions de la caisse de grève. Et puis voilà. Et puis après, nous, on se posait des questions, mais c'est aussi de, voilà, si à la RATP, notamment à la SNCF, ça se pose beaucoup pour la région parisienne, mais comment, en fait, on va réussir aussi à se retrouver pour discuter entre les différents secteurs. Je pense que, voilà, après la reconduction, nous, on disait que, bah, quand on part en reconductible, il faut qu'on ait la nécessité de se retrouver en assemblée générale quotidiennement pour décider des suites avec les secteurs mobilisés. Donc voilà, c'était tout.
Je m'appelle Clément. Je suis cheminot du technicentre de Châtillon. Donc je suis venu avec deux de mes collègues, Philippe et Chloé. Bon, il n'y a que moi qui va parler. Mais en gros, comme vous le savez très bien, il n'y a même pas 3 semaines, on a bloqué la moitié de la France avec notre grève en étant 220. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire passer de notre part. La première des choses, c'est que si on a gagné notre grève, faut qu'on vous le dise aussi, c'est qu'au départ, il n'y avait pas vraiment de perspective de victoire. Il n'y avait pas vraiment de personne qui y croyait. C'était complètement à contre-courant de tout ce qui se passait à la SNCF. Parce que voilà, la grève de 2018, elle nous a tous fait du mal, je pense. Et au final, regardez, qu'est-ce qu'on a fait. On a fait 11 jours de grève et on a gagné sur la totalité de nos revendications. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Comment est-ce qu'on a gagné de cette façon-là? C'est parce que nos AG ont toujours été démocratiques, qu'on a pris nos décisions nous-mêmes, qu'on a commencé notre conflit ensemble. On se le disait beaucoup, ça, on se le disait tous les jours. On a commencé notre conflit ensemble, et tant qu'on ne sera pas tous satisfaits, on n'en sortira pas. Et on sortira toujours de ce conflit ensemble. Et donc je pense que c'est un truc aussi que nous, on doit se faire là, entre les différents secteurs. C'est quelque chose qu'on doit se dire là, et je pense qu'il doit être répété pendant la grève. Et voilà, en fait, c'est cette grève-là, on est en avance par rapport à des précédents conflits historiques qu'on peut prendre comme exemple, c'est-à-dire 95. On est en avance, c'est-à-dire qu'on discute déjà. Il y a quand même pas mal d'aspects intéressants, c'est-à-dire quand même RATP plus SNCF, ça enjaille beaucoup de monde. Faut dire ce qui est. Enfin, la perspective de bloquer Paris, effectivement, il y a aussi la province à prendre en compte. Mais plus ça va, plus en fait on remarque qu'il y a des secteurs qui veulent rentrer dans la bataille. Mais le 5, c'est là que ça va jouer. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ça se prépare quand même. Ça se prépare, mais le 5, faudra voir le 5 et faudra voir en fonction qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça que nous, la dernière fois, on a fait une AG. Et on a décidé en fait de créer un pôle autour de notre technicentre à nous, parce qu'on est dans une zone industrielle, voilà, où il y a les dépôts de la RATP, de la ligne 13, des dépôts de bus aussi. Et il y a plein d'autres secteurs, c'est-à-dire Veolia pour les éboueurs, Orange, Siemens, il y a des écoles. Et voilà, on se disait en fait que ça serait bien de faire la démonstration qu'on se bat ensemble. On se bat pour la même cause, c'est-à-dire le retrait de la réforme, et que cette réforme concerne tout le monde. Parce qu'actuellement, il y a une attaque, une offensive médiatique qui est assez importante, qui dit que c'est une grève des régimes spéciaux. Mais non, c'est pas une grève des régimes spéciaux. Parce que je pense qu'ici, on se bat tous pour tout le monde. On a tous une femme, des enfants, ou des parents, peu importe. Et voilà, en fait, je pense que c'est ce discours-là qui doit être le plus fort chez nous. Et c'est pas se battre pour sa petite corporation, parce que voilà, des fois, par moment, ça ressort. Voilà, je le vois beaucoup des fois à la télé ou quoi, où tu vois des interviews de collègues ou quoi qui disent oui, voilà, moi mon régime spécial. Mais en réalité, est-ce que c'est ça vraiment le plus important? Est-ce que on a envie de vivre dans une société où il y a des jeunes qui s'immolent par le feu Il y a eu une jeune, il n'y a même pas trois jours, qui s'est immolée par le feu dans un lycée. Est-ce qu'on a envie de continuer dans la précarité? Est-ce qu'on a envie de payer à chaque fois qu'on va à l'hôpital, de voir un peu tout ce désastre-là? Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de discussions à avoir, qu'on peut avoir justement dans ce mouvement, dans cette grève. Parce que c'est tout le temps, dans les moments comme ça, quand on est en grève, quand on lutte pour quelque chose, qu'on discute réellement et qu'on trouve réellement des idées. Et je vous assure, nous, c'était le cas dans le Technicentre. On était plusieurs équipes. On ne se parlait pas, on ne se disait même pas bonjour. Aujourd'hui, on se serre tous la main. C'est un peu magnifique, les liens qu'on a créés. Et ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'on peut faire la même chose à une échelle plus grande, mais il faut qu'on s'en donne les moyens. C'est-à-dire le 5, il faut que nos AG soient démocratiques et que les grévistes prennent leurs décisions. C'est quelque chose qui est essentiel si on veut gagner. C'est quelque chose qui est essentiel et il va bien falloir faire voter vos revendications dès le premier jour. Dès le premier jour, c'est-à-dire de dire voilà, on veut le retrait de la réforme des retraites. Et si après, dans les discussions, il y a d'autres revendications qui sortent, et ben ça se discute. Ça se discute, mais voilà, c'est des choses qui viennent sur le coup. Un conflit, c'est pas carré. Un conflit, ça peut avoir des virages parfois. Ça varie. Ça sera jamais. On fera jamais une grève calquée sur 95 ou quoi que ce soit. Ça sera quelque chose de différent parce qu'on est dans une période différente. Et donc, je terminerai là-dessus. Les AG, le 5. Je pense qu'aussi, il y a un truc qui va être vachement important. Même si je sais qu'il y en a certains qui sont syndiqués, moi je suis même syndiqué, ça va être de mettre nos étiquettes syndicales vraiment de côté et de bien faire remonter le message à nos fédérations. Notamment, je pense, mon avis, c'est en les interpellant que nos revendications, elles sont votées par les AG et qu'on se battra pour ça, on se battra pas pour autre chose. Parce que voilà, c'est ça qui va se passer. C'est qu'on va, nous, on va essayer de nous enfermer le plus possible dans des revendications corporatistes qui concernent chacun son petit régime spécial, et c'est comme ça qu'ils vont essayer de nous éclater. Merci beaucoup.
Extrêmement réaliste, d'ailleurs, la fin, d'ailleurs, puisqu'effectivement, le pouvoir ainsi que ses médias vont tout faire pour faire en sorte que le peuple comprenne que finalement, c'est une histoire de régimes spéciaux.
Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, puisque pour, on va dire, la première fois. C'est aussi clair que ça, puisque vous le savez peut-être que le chômage et la retraite sont du salaire différé. Ce n'est pas une assurance, ce sont des choses qu'on met de côté, qui sont prises sur notre salaire à nous et qui ensuite nous sont reversées, quoi. C'est-à-dire que on reprend ce qui était sorti au travers de la réforme de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on déconnectait l'emploi du salaire, quoi. Et donc là, évidemment, avec cette transformation, ce qui arrive, cette retraite par répartition, par points, enfin, puisqu'on ne sait même pas ce qu'il y a dans la réforme d'ailleurs.
On ne sait pas pour l'instant.
Bon, mais bon,
il faut pas s'en illusion.
Ça va pas être une augmentation, quoi. C'est vraiment cette remise en cause de ce fondement-là qui est le plus important. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on a écouté, c'est, on va dire, la différence et la gradation, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui a vécu un mouvement. Et puis on a d'autres personnes qui, semble-t-il, aimeraient bien en vivre un. C'est quand même assez perturbant d'entendre toujours ce même leitmotiv, d'être obligé de se convaincre soi-même pour convaincre les autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir des arguments rationnels et légitimes. On n'a pas à être...
Ce qui me fait marrer, sourire plutôt, c'est la référence à décembre, parce que le mois de décembre 1995, comme il fut une époque avant 95, la référence était mai 68. À chaque fois qu'il y avait un mouvement au printemps, on parlait de mai 68. Ça va durer jusqu'en 95 ou après 95 d'ailleurs, il y aura tout de suite toujours cette référence à décembre 95.
Ben, alors, ouais, dans quelques instants, tu nous raconteras un petit peu ce qui s'est passé.
C'est
justement
ça, ce qui s'est passé exactement en 95. Donc, je pense que faut arrêter d'avoir comme référence ces trucs-là. On est là pour vivre quelque chose au présent et que le présent n'a pas grand-chose à voir ce qui s'est passé il y a 24 ans avant. Les prémices d'ailleurs de 95 n'ont rien à voir avec les prémices de 2019, puisque on peut mettre dans les prémices ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, qui n'existait absolument pas en 95. Il y avait le poids du syndicalisme était omniprésent en 95, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que bon, effectivement, quand t'écoutes un petit peu ces syndicalistes qui parlent et qui disent on va pas mettre notre étiquette syndicale en avant, c'est aussi parce que ils ne peuvent plus la mettre en avant. Parce que effectivement, il y a eu cette évolution et il y a eu aussi et surtout ce moment des Gilets jaunes où qui est apparu sans, qui se voulait sans leader, sans chef. Donc là, effectivement, et puis surtout, sans avoir à obéir à des ordres, comme c'était le cas dans le mouvement ouvrier en général depuis qu'il est là. Bon, alors, je crois que on va parler un peu de 95 tout de même pour faire une parenthèse.
C'est vachement important aussi de parler de au présent, c'est-à-dire de partir de ce que l'on est aujourd'hui et que la situation de l'emploi, que les données
des chômeurs, le chômage,
les précaires, les gens qui bossent à petit, les conditions de l'exercice du droit de grève dans les transports en commun avec ce fameux service minimum et ses nécessités de déclaration des 2i, la répression dans les manifestations, puisqu'on sait que jeudi, il y a de fortes chances pour que le moindre prétexte soit utilisé pour qu'on nous pète la gueule. On va se faire péter la gueule en manif maintenant. On va en manif, on ne sait pas si on repart en entier. La justice qui est derrière et qu'avoine tout ce qui bouge. Enfin, on pourrait encore en faire des listes et des listes. Et puis, l'exercice de ce droit de grève avec la nécessité, l'encadrement, tout ce qui est de l'ordre de la régulation sociale, c'est des choses qui n'étaient absolument pas et qui n'existaient absolument pas en décembre 95. D'ailleurs, je me demande même s'il y a encore des gens qui ont participé à la SNCF à décembre 95 qui pourraient raconter comment ça se passait et qui travaillent encore, normalement, il y en a déjà pas mal qui ont dû partir en retraite, c'est clair. Et ce que nous expliquaient les gens qui bossaient à ce moment-là, c'est qu'ils pouvaient travailler une demi-heure, faire grève 3 heures, reprendre, etc., et désorganiser totalement la réponse du patron, du taulier, du singe, pour pouvoir organiser justement quelque chose, organiser la normalité ou un semblant de normalité. Ce qu'il faut effectivement, de toute façon, c'est clair que vu que les gens ont envie d'en découdre, et ça se ressent, il n'y a pas que les retraites, et ce type d'initiatives là, elles sont assez inédites, rares, pardon, plutôt pour qu'on les remarque. Bon, il y a vraiment quelque chose, quoi. Et puis, comme tu dis, par rapport au mouvement qu'il y a eu toute l'année dernière des Gilets jaunes, les syndicats sont quand même obligés de ramener un petit peu de quelque chose dans la balance, sinon il ne va plus y avoir personne chez eux. Il n'y a plus de cotise. Plus de cotise égale plus de permanent. Plus de permanent égale obligé de retourner au travail. Donc, t'imagines comment ça va chier. Mais, il faut bien prendre conscience qu'on part aujourd'hui et que les choses sont claires. On a en face de nous une bourgeoisie de combat,
ouais,
qui est totalement consciente de ses intérêts.
C'était la même chose en 95 avec Juppé.
C'est vrai. Mais on était dans une situation où peut-être il y avait encore des interlocuteurs entre, on va dire, les travailleurs et cette bourgeoisie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait cette présence de la gauche plurielle, avec ses instances, qu'ils soient syndicales, associatives ou politiques, exemple le PCF, le PS, etc., qui pouvaient éventuellement servir de relais ou de tampon, alors qu'aujourd'hui, on est tout seul.
Oui, enfin, quand même, faut préciser. Moi, j'ai relu donc Courant Alternatif 2005, les 10 ans de 1995. On a repris un peu un certain nombre d'articles qu'on avait publié en 1995. Cette hors-série, vous pouvez toujours vous le procurer, hein. Il suffit de nous écrire, hein. Égrégore, boîte postale 81-213-51-058 à Reims, CEDEX. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Alors, ce qu'il faut dire, déjà, en lisant ce truc-là, que j'ai relu, moi, il y a des trucs qui me font sourire. Une grande partie du Parti Socialiste était pour le plan Juppé, y compris un certain Mélenchon, qui est monté au créneau à cette époque-là, pour défendre le plan Juppé. Alors dans ce plan Juppé, il y avait bien sûr les retraites, l'assurance maladie, il y avait aussi la politique sociale, etc. Il y avait tout un truc costaud qui a été balancé d'ailleurs en novembre 95 à l'Assemblée nationale le 14 novembre exactement. Donc, alors que là, pour l'instant, on ne sait pas. Au niveau des retraites. Hein. Par contre, on sait, et on l'a fait une émission là-dessus, ce qui se passe pour les chômeurs, les précaires, etc., concernant Pôle emploi. Alors, par rapport, il y a des différences énormes qui n'ont rien à voir. La période, c'était il y a 24 ans. Hein. N'empêche quand même, il faut dire qu'en 95, si effectivement les cheminots ont été le moteur, c'est parce que essentiellement le 24 novembre, ils se sont mis en grève reconductible. Et pour certains cheminots, ça va durer 3 semaines, voire plus. Mais dans cette grève reconductible, les cheminots seront minoritaires. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus de 400 000 personnes salariées en France qui se mettront en grève reconductible. Pas plus de 400 000. D'accord. Par contre, il y a eu 2 millions de personnes qui ont fait grève à un moment ou à un autre. Entre trois, ça a duré 3 semaines, le mouvement, le temps fort du mouvement a duré 3 semaines. Ça a duré, grosso modo, du 24 novembre, date de la première journée d'action. À cette époque-là, c'était la journée d'action. Donc, où il y a eu, je crois, que 500 000 personnes dans la rue en France. Que 500 000. Parce que, en 3 semaines, ça va monter à 2 millions de personnes dans la rue. Et 2 millions de personnes qui font grève aussi. De manière ponctuelle, hein, souvent, très ponctuelle souvent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la RATP a embrayé au bout de 5 jours, que les grèves sont étendues après à la Poste, à EDF, aux impôts, Éducation nationale, France Télécom, etc., le 30 novembre. Et le privé va être aussi pas négligeable au bout d'un certain temps, c'est-à-dire début décembre, ils vont s'y mettre aussi. Il faut savoir que la France va tout de même être paralysée, on peut dire, pendant 7 jours. 7 jours, il y a quasiment plus de, il y a pas de train de toute façon, il y a plus de transport en commun, il y a plus de, c'est difficile d'avoir de l'essence déjà. Hein. Beaucoup de gens se vivent autre chose, et c'est là que c'est important à comprendre. Et les copains du Technicentre de Châtillon, en parlait, c'est ce qui va se passer dans la société française. Il va y avoir une certaine solidarité, il va y avoir des tas de fêtes, il va y avoir des tas de choses qui vont se passer, qui ne se seraient jamais passées s'il n'y avait pas eu ce mouvement. Et ça, c'est notre grand espoir par rapport à ce qui va se passer là. On a eu déjà des prémices au niveau des Gilets jaunes, d'ailleurs. Hein. C'est évident, hein, au niveau de les ronds-points, etc. C'était vraiment, il y avait des côtés très festifs, très très collectif qui existait et qui va peut-être renaître là, je pense. Voilà.
Alors oui, espérons sur ces piquets et que cette rupture, cette déchirure du quotidien, de la tristesse et de la grisaille quotidienne, c'est effectivement quelque chose qui marque décembre 1995. Et quand il y a une grosse partie de la logistique du capital qui est en grève, bon, ben même si les gens ont pas envie de faire grève, s'ils peuvent gratter 1 ou 2 jours sous les draps ou avec les gosses, en prenant comme prétexte cette désorganisation-là, tout de suite, la solidarité, elle est un petit peu plus, comment dire, matérialisée que les discours habituels sur ces salopards de privilégiés. Et de toute façon, sur la région parisienne et sur Paris, on sent que dans les discussions qu'on peut avoir, que il y a une envie que ça se passe bien. Ça veut dire que devant l'arrogance quand même de ce pouvoir, devant cette situation et cette vie qui est de plus en plus difficile, de plus en plus chère, qu'on bosse ou qu'on bosse pas, il y a l'envie de donner un coup d'arrêt et de dire, enfin d'apporter une réponse, quoi. Et qu'est-ce qui nous réunit au maximum dans la société, si ce n'est la question de l'exploitation, du travail et de ce rapport au quotidien, quoi. Et tu l'as dit, il faut que chacun et chacune soit capable de sortir de sa petite attribution, que ici le syndicaliste, que là le chômeur ou et que tout ça ça échange, ça change, et que on se rende compte que la lutte et que le combat c'est quelque chose non seulement de positif mais c'est quelque chose de très très agréable qui peut permettre, on n'est pas obligé de faire des manifs plan-plan, de se faire chier et de rentrer chez nous, quoi. Il faut justement que tout ça soit un peu bousculé. Pour qu'on reprenne le goût de la vie, le goût de la lutte, quoi.
Alors après, effectivement, peut-être la différence, elle va être là, au niveau de l'État, c'est-à-dire la répression. On ignore totalement si l'État va être sur les mêmes bases qu'il l'a été par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Et puis, il n'y a pas que les mouvements des Gilets jaunes qu'on a pris plein la gueule ces derniers temps. Hein. Tous ceux qui sortent dans la rue sont vraiment massacrés. Il y a des blessés graves. Il y a eu tout de même des gens qui ont décédé. Je pense à cette femme de Marseille. Mm-hmm. Donc, c'est une grosse interrogation. En 1995, il y avait des manifestations importantes, surtout dans les villes de province. Les plus grandes manifestations, c'était Montpellier, Marseille, Nantes, où il y avait autant de monde, par exemple, à Marseille qu'à Paris. Hein, c'est des trucs qu'il faut se rappeler. En région parisienne, d'ailleurs, il n'y avait pas qu'une manif à Paris. Il y avait des manifestations dans d'autres villes de la région parisienne.
Et puis, tu parlais de la répression. Au moins, les choses sont claires, puisque le seul régime de retraite qui n'est pas concerné par un quelconque aménagement et dont on a débloqué à peu près de 300 millions d'euros pour payer les heures supplémentaires, c'est celui des flics. Donc quand
pourtant,
on vous dit que ces gens-là...
Pourtant ils se plaignent.
C'est ça, que ces gens-là sont payés à nous taper sur la gueule, au moins les choses sont claires, quoi. Le clébard est bien nourri, voilà. Mais ça, on ne pourra pas le savoir. Ça, de toute façon, ce qui va être le quelque part le vrai rendez-vous, c'est pas jeudi, même si jeudi c'est important de faire grève, c'est lundi.
C'est lundi 9, on verra si c'est un mouvement social ou pas. Hein,
on verra bien. Et lundi 9, ben on sera derrière le micro de l'Aigre-Gore, donc on pourra
voir un petit peu
ce qui s'est passé voir qu'est-ce qu'on pourra faire. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient parler de cela, parler de la manifestation, parler de comment ça se passe chez eux dans leur boîte, de s'ils ont envie de faire grève, etc. Faut pas qu'ils hésitent. Les micros et la radio et les Grégores sont évidemment un outil dont chacun et chacune peut se saisir pour se servir et participer à la construction et à la vie du mouvement social. Mais ça, on en reparlera lundi et jeudi dans la rue pour ceux qu'on verra, quoi.
Allez, on fait une pause musicale.
Ils marchent ensemble sans se séparer. L'union fait la force chez les ouvriers, sur tous les chantiers. Le cœur plein d'espoir, l'espoir de changer cette société. Oh, ils ont lutté et ils ont crié, ils ont avancé, souvent les premiers, le drapeau au vent, l'espoir en chantant, les coudes se serrant et maître du temps. Oh, ils ont crié solidarité de toute leur cité jusqu'à l'Elysée. Stop à la machine, on veut travailler. Personne ne les a vraiment écoutés. Oh, ils ont aimé la révolution. Mais ils ont perdu toutes leurs illusions. Le vent a tourné, balayant leurs idées. Et ils sont restés seuls les poings serrés. We'll be right back.
Allez, deuxième partie de notre émission, on va complètement changer de sujet, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'on va vous parler un petit peu de religion et de Maghreb.
Ouais, alors je sais pas si on aura le temps de tout entendre, mais bon, c'est pas grave, ça, on aura l'occasion de repasser des extraits, voir le documentaire sonore complet et dans d'autres occasions, puisqu'il est immémoriel. Il s'agit en fait de témoignages de Maghrébins, en l'occurrence là, d'Algériens, qui parlent de la difficulté de se vivre et de vivre leur athéisme dans leur pays. Alors, il ne s'agit pas pour eux de le revendiquer, mais d'expliquer comment ils sont obligés de se cacher et de faire comprendre le poids que représente la religion dans leur société et comment quels sont les petits comment dire astuces ressorts qu'ils essayent de développer pour vivre ça au quotidien. Alors il y a plusieurs témoignages qui sont là, ceux-là sont issus de l'Algérie, il y en a d'autres au Maghreb, il y en a quelques-uns aussi en Égypte. Où évidemment le poids de la religion est de plus en plus important et où l'hypocrisie évidemment est extrêmement présente, notamment l'hypocrisie religieuse quoi. Mais bon, laissons la parole au premier concerné et ça dure un petit quart d'heure et on y reviendra peut-être après.
Être athée en Algérie, c'est une vie extrêmement dure. On est obligé de vivre une vie à part. C'est comme si on était un étranger, un extraterrestre dans une autre planète. Je suis Omar. J'habite Rouiba, qui est à quelques dizaines de kilomètres d'Alger. Je suis un athée convaincu. Je vais allumer le climatiseur.
Parce que là, c'est un hammam, là. Wow. On dit ça ?
Non.
C'est ça de faire une interview cachée dans une voiture.
Je me cache, bien sûr. Entre amis, il y a un cercle restreint où on discute, on se félicite. Mutuellement, d'avoir su nous affranchir de cet enchaînement. Ah, le reste, non, c'est livrer une guerre directement à son peuple, c'est pas possible, madame. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas, il faut être dans la peau d'un Algérien ou d'un musulman qui a vécu ceci pour voir à quel point, c'est-à-dire on est l'objet d'une abomination. Il n'y a pas plus mal qu'une personne athée, c'est l'incarnation du mal.
Tu peux régler la fréquence, toi.
On nous parlait souvent de ces gens qui étaient les athées quand j'étais musulman, qu'ils étaient financés parfois par Israël, parfois par des francs-maçons. Parfois. On croyait à ces légendes. Moi, c'est Lamine, j'ai 22 ans. Je me définis comme athée. On est dans le local d'une association à Bougie. On se cache dans un local pour faire cette interview.
Maintenant, avec l'intégrisme, nous sommes des condamnés à mort. Finalement, tu te déclares athée, c'est un peu avoir le courage de mourir. Donc ce débat, quelque part, on évite, tout le monde évite d'en parler. Je m'appelle Mustapha Raïs, donc je suis de Béjaïa. Béjaïa, c'est une ville kabyle au centre nord de l'Algérie.
Une bière, tu veux une bière ?
J'en ai marre de vivre dans ce silence. Je me sens un petit peu hypocrite. Il y a de l'hypocrisie que je traîne à ne pas le dire.
Au début, c'était les arguments scientifiques qui m'ont convaincu. J'avais lu des écrits dans des blogs. J'ai aussi lu dans des pages égyptiennes, tunisiennes. Puis j'ai arrêté. J'ai essayé de demander pardon à Dieu. J'étais vraiment perturbé. je sentais que j'avais lu des trucs à ne pas lire, des trucs qui cherchaient à m'éloigner de Dieu.
Je vais ramener de l'eau.
Ah oui.
Depuis, si tu veux, mon enfance, moi, la religion ne me disait rien. C'était en grandissant qu'on m'a appris que je suis musulman. Et le bon Dieu à l'époque, moi j'ai cru que c'était un vieillard, une grande barbe blanche. C'était mignon le bon Dieu, c'était charmant. Et je savais que c'était quelque chose qui ne faisait pas du mal. Grandissant, on m'a appris les interdits. J'avais des cheveux longs, j'étais dans le vent, j'étais comme les hippies. Oui, je chantais, je dansais et tout. Il y a une morale qui est venue m'apprendre, non? Tu dois couper tes cheveux. Tu ne dois pas boire de l'alcool. Et j'étais révolté parce que je savais que dans mes cheveux longs, c'était la liberté, c'était beaucoup de choses. C'était l'amour aussi.
Après quelques mois, j'avais un truc qui me poussait à revenir et lire ces critiques.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à Alger, terminus de ce train.
J'ai commencé à voir l'islam comme une religion totalitaire. Je ne pouvais plus croire en Dieu ou...
Donc juste le ventilateur pour la buée.
Oui, un petit peu, ouais.
Il y a trop de...
Ouais, je sais, mais on est obligé parce que sinon ça fait trop de bruit. Toi, c'est compliqué l'interview dans une voiture.
Très, très bien.
Qu'est-ce que tu regardes?
Je ne sais pas pourquoi cette femme est en train de regarder ici.
C'est le peuple lui-même qui est inquisiteur. Le peuple lui-même qui ne tolère pas que tu adoptes une conduite autrement que la sienne. Donc déjà le jour du vendredi, quand moi je rentre à la maison, et c'est tous les gens du quartier qui se dirigent en même temps à la mosquée pour prier. Et moi je prends le sens inverse, donc vers chez moi. C'est un petit peu visible, on n'a pas besoin de polémiquer sur ça. C'est un comportement un petit peu... Je l'assume, oui, je l'assume. Par contre, je ne peux pas manger ou boire pendant le ramadan devant tout le monde. Et à l'approche du ramadan, je suis déprimé 2 mois avant qu'il n'arrive. Ne pas faire le ramadan, c'est quelque chose de très 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 mal vu. C'est sûr que je ne vais pas demander à ma femme de me cuisiner, elle va être révoltée. Mais je vais m'acheter quelques dattes que je mange discrètement. À celui à qui j'achète des dattes, lui il pense que c'est pour la rupture du jeûne. Mais moi je les mange juste aussitôt derrière le coin. Ma femme, elle est tolérante, mais elle ne voudrait pas savoir que je suis athée. D'accord? Donc j'use parfois de ruse. Je lui dis que, en fait, je ne suis pas athée, que je suis juste contre une interprétation trop dogmatique de l'islam, que je suis pour la réforme. Une fois, mon épouse m'a dit que si tu es athée, donc ça fait 10 ans que je vis avec toi dans le péché. Tous les rapports sexuels qu'on a eus ensemble, c'était des adultères. Je le déteste. L'appel à la prière en soi, il ne me dit rien, il ne me gêne pas, dès lors qu'il ne m'abasourdit pas.
L'État qui avait multiplié et autorisé la construction de mosquées à tous les villages, j'ai l'impression qu'il voulait emmerder et dominer fortement le peuple par la religion. C'est-à-dire, là où on va, on entend, tu vois, ça sonne dans tes oreilles, ça sonne 24 sur 24.
Allez, yalla, c'est parti. On ne dit pas yalla en kabyle.
Non, on ne dit pas yalla. Aïya.
Aïya.
Yallah, c'est...
Yallah, c'est arabe, c'est un peu...
C'est au bon Dieu.
Yallah.
Allah, c'est Dieu.
Ya Allah.
Barakallahu, c'est que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Ça, c'est religieux, barakallahu fik. Non, moi, j'exècre le salut religieux. Je préfère le salut mondain. Le salut civil, je ne dis pas salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Je ne l'aime pas. Déjà, ça veut dire que salam alaikum, la paix soit sur vous, je suis de la même secte que toi. Pourquoi je n'aime pas l'islam? C'est parce que ce n'est pas une spiritualité. C'est une doctrine dont les concepteurs voulaient envahir complètement la sphère du privé. Même quand on rentre aux toilettes, il y a des choses à dire. Quand on en sort, c'est l'occasion de rire. C'est toujours l'occasion de rire, de me marrer. Je suis déconnecté de ma société. Pratiquement, je ne prends d'elle que ce qui est nécessaire à ma survie. Moi, j'ai mon monde. J'ai le monde d'Internet. Pourquoi je vais livrer une guerre à toute ma société? Je le fais selon mes moyens. Donc, en écrivant, je publie. Cela fait presque deux ans que j'ai créé la page Facebook athée algérien, algérienne, mécréant, irreligieux et irreligieuse. On est toujours discret, on se fait toujours petit, on est toujours, on adopte de faux profils. On n'est pas encore assez nombreux pour affronter de front la société et dire ce qu'on est. Non, c'est... D'ailleurs, c'est contre la législation. Annoncer directement son athéisme, faire du prosélytisme, influencer d'autres personnes, à les faire sortir de l'islam ou leur suggérer une autre religion, c'est passible d'une peine de prison.
Hé hey. Coco, aussi là.
Il est chouette, Coco. Il est chouette, ton fils.
Ah ouais?
Ah ouais.
Quelque part, mes amis me reprochent. De toujours m'inquiéter sur Coco, attention, fais pas ceci, fais cela. Tu sais, dans cette société, justement, mon fils au début, il serait un intégriste. Hein? Ben oui, parce que mon fils, à l'âge de 14 ans, il a rejoint ses amis du quartier à aller à la mosquée, à aller prier. Mais tout ce que je lui ai dit, que la mosquée, tu n'iras pas. Tant que tu n'es pas majeur, tu n'iras pas à la mosquée. Tu fais ta prière à la maison. Tu lis tes livres à la maison. Bien sûr que j'ai eu peur de perdre mon fils. Hein. C'est des gens, ont eu leur fils intégriste, qui parfois ont pris la décision, durant la décennie noire, d'assassiner leur père. Hein.
C'est quoi la décennie noire?
C'est les années 90 d'intégrisme, où il y a eu des assassinats. D'ailleurs, les chiffres... un peu plus de 200 000 morts. C'est des séquelles qui vont encore durer pendant des décennies. On a ce dieu, justement. Ce dieu criminel. Ce dieu de la répression.
Avant la montée des islamistes, la société était très libre. Comme ce fut le cas avec l'Iran... Après la décennie noire, les gens ont gardé cet islam radical. Dans les années 80 avant, on m'a raconté, j'étais pas encore né. C'était rare de voir une femme voilée, des hommes barbus, pratiquer une religion musulmane light. L'islam est religion d'État. C'est l'un des premiers articles de la Constitution algérienne. On ne veut pas de ça. Si un musulman pratique sa religion sans restreindre mes libertés, il ne me dérange en aucun cas. Je serai le premier à défendre sa liberté de pratiquer sa religion. Mais de là à restreindre mes libertés au nom de sa religion, je ne peux pas accepter.
Nous avons un souhait ardent de voir un jour notre peuple accéder à la pensée libre et à la pensée laïque. Que les rituels ne soient plus un comportement collectif et visible dans la rue. Fais ce que tu veux, mais que votre rituel ne m'atteigne pas. Je ne suis pas, par exemple, censé remarquer un climat ramadanesque. Pourquoi la vie, pendant les 11 mois de l'année, elle a un certain cours et aussitôt, pendant un mois, ça se voit qu'il y a un comportement collectif. Pourquoi une religion a-t-elle besoin de susciter en ses adeptes un comportement collectif en même temps? Pourquoi?
Je vais y aller.
Mais,
Je te dis pas ma salama alors.
Non, non,
je te
non.
Je dis comment?
Au revoir. Tout simplement.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse, à Local, à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.